Vous écoutez RTL. Curiosité est un vilain défaut.
Quelle femme remarquable que cette Émilie du Châtelet.
RTL.
Oui, allons, épargnez-moi les détails de la séduction. Il n'ajoute rien à l'affaire.
20h-22h.
Le récit de l'empoignade suffira.
C'était sans précédent.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Des femmes qui réfléchissent et argumentent, des femmes qui séduisent et influencent. Bienvenue dans les salons du 18e siècle, laboratoire du féminisme et premier pas vers la parité homme-femme. On s'y invite ce soir grâce à Anne-Marie Lugan-Dardinia. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse, auteure et passionnée, on l'aura compris, par la question des femmes. C'est quoi un salon au 18e ?
Alors, c'est un lieu qui concerne la grande aristocratie, les classes, vraiment l'élite privilégiée. C'est quelque chose, les salons ont commencé déjà à exister au XVIIe siècle, mais au XVIIIe, ils prennent une très grande ampleur. Et alors, ce sont des grandes aristocrates qui ouvrent leur luxueux salon de leur hôtel particulier à jour fixe, et aux heures fixes, et pendant des années et des années, des décennies parfois. Et elles reçoivent là une société très choisie. On est entre soi, mais il y a des... Elles ont la passion des idées. Alors, il y a les salons. Il y a des salons qui sont uniquement dédiés à la fête, au bal, aux choses, disons, frivoles, mais qui ont aussi l'esprit de conversation. Et puis, il y a ceux qui sont vraiment tenus par des intellectuels et par des femmes passionnées par les idées et qui vont recevoir au fil du siècle les philosophes, les écrivains, des économistes, des hommes politiques, des diplomates et tous les personnages importants des Lumières.
Quel a été le premier salon d'importance créé ?
Alors, le premier, c'est celui de la duchesse du Maine, qui est un salon qu'elle tient dans son domaine de Sèvres. Et il y a une véritable cour, mais c'est beaucoup moins. Il y a des écrivains, il y a Fontenelle, des scientifiques. Il est fréquenté par aussi bien Madame du Châtelet, qui était évoquée tout à l'heure dans le petit passage que j'ai entendu. Mais il est...
Est-ce que c'est le fameux salon de la Chambre Bleue ?
Alors non, la Chambre Bleue, c'est 17e siècle. C'est le premier salon important au 17e siècle. C'était Madame de Rambouillet. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire parce que c'est le premier. Elle a décidé de recevoir donc au premier étage de son hôtel particulier dans un salon d'apparat. Et... elle reçoit bien entendu tous les écrivains, tous les hommes qui sont intéressés par ce rapport aux femmes et par cette conversation, à élaborer un échange entre hommes et femmes.
Mais c'est pas scandaleux justement pour des hommes d'aller chez une dame comme ça de quoi se mêle-t-elle en fait finalement ? Certains hommes disent ça ou pensent ça ?
C'est très public, hein, c'est vraiment très social et très socialisé. Il y a toute une hiérarchie sociale d'ailleurs. Ce ne sont que des grands aristocrates qu'elle reçoit, hein, quand même, mais aussi des écrivains. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'au cours du siècle, au cours du 18e siècle, il va y avoir une progression et petit à petit, on va recevoir dans ces salons des gens, non pas pour leur quartier de noblesse et leur grande aristocratie, mais à cause de leur intelligence, de leurs valeurs humaines et de leurs idées. Et c'est comme ça que petit à petit vont se répandre les idées des Lumières de la ville. Non, des salons dans la ville et puis de la ville en province, etc.
Et c'est pour ça que l'histoire des salons nous passionne. Est-ce qu'il y avait des spécialités entre les salons et une concurrence, en fait, entre ces salons et les dames qui les tenaient ?
Oui, il y avait une concurrence, bien entendu. Par exemple, Madame du Deffand était très jalouse quand elle était très jalouse du salon de Madame Geoffrin. qui recevait, qui était une grande bourgeoise, très riche, bien entendu, mais qui était et qui recevait tous les encyclopédistes. Et on disait qu'il y avait des dîners fins qui étaient tellement agréables que donc Madame du Deffand était très jalouse. Le salon de Madame du Deffand était extrêmement brillant. Il y avait vraiment une conversation. C'était une femme elle-même très brillante.
Est-ce qu'elles essayaient de se piquer les invités, ces deux femmes?
Oui, certainement, certainement. Mais bon, ils allaient un peu partout aussi, les invités.
Ah oui, il n'y avait pas une exclusivité si on fréquentait le salon de Madame...
Non. On pouvait être invité dans plusieurs salons successivement. Mais il y avait quand même des salons d'écrivains, des salons de philosophes, quand même. Il y avait une certaine orientation.
Mais on est au XVIIIe siècle. Est-ce que le roi ou des membres de la famille royale se rendent dans les salons?
Non, alors ils sont complètement... La cour, justement, les salons ont été créés pour répondre à l'indigence de la cour, si je puis dire, l'indigence culturelle et de sociabilité de la cour. En particulier, Louis XV était complètement sans intérêt pour les philosophes et il ne s'intéressait qu'au plaisir de la chasse et au plaisir sensuel de ses maîtresses. Mmh. En revanche, Madame de Pompadour était très cultivée et était une habituée du salon de Madame Geoffrin, de Madame de Tincin. Elle a vraiment fréquenté tous les salons.
On parlait du tout premier salon qui a été créé au XVIIe siècle, la fameuse chambre bleue. On y élabore la carte du tendre. On en a tous entendu parler, mais rappelez-nous ce que c'est. Est-ce que ça change dans les rapports hommes-femmes?
Alors, c'est un itinéraire qui est inventé par... Qui sera intégré après au roman, dans un roman, Clélie, qui était très à la mode à l'époque, mais qui est inventé jour après jour par les gens présents dans la chambre bleue. Alors, on imagine, c'est le début de la psychologie amoureuse. On imagine, par exemple, ce qui décrit l'amour, c'est le mot, le désir, l'amour spontané, c'est le mot inclination. Tout était très, codifié d'une certaine façon. Oui, tout à fait. Alors, il y a le lac d'indifférence, le chemin de... Il y a différents trajets qui
qu'est-ce qui ça change finalement dans les relations hommes-femmes, cette carte du tendre?
Ça change tout, parce que jusque-là, les femmes en particulier, y compris les femmes de cette grande aristocratie, avaient des maris qui s'intéressaient à la chasse et aux exploits militaires, et qui vraiment...
On ne leur faisait pas la cour, donc
oui, non. Vraiment pas. Et donc, c'est pour pallier à cette solitude et à cette... parce qu'elles étaient mariées pour des raisons de patrimoine, dans le sens. Et donc, on ne se souciait pas d'assortir les gens. Et donc, elles étaient la plupart du temps déçues par leur mariage. Et c'est ce qui entraînera certainement chez elles un refus de la sexualité. Et elles, chez les femmes, les précieuses du XVIIe siècle.
On va en parler justement de ces précieuses. Ninon de L'Enclos, la duchesse du Maine, Madame de Lambert. Toutes ces femmes tenaient salon au XVIIIe siècle. Elles ont, à leur manière, participé à la libération de la femme. On vous raconte comment tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Écrin de liberté pour les femmes, laboratoire de nouvelles idées, de nouvelles pensées. On visite ce soir les salons des 17e et 18e siècles avec Anne-Marie Lugan-Dardignat. Dans ces salons, on y rencontre les fameuses précieuses. Alors, qui sont les précieuses?
Alors, les précieuses sont des femmes qui ont essayé de mettre en place tout un nouveau système de relations entre les hommes et les femmes. Elles ont cherché à créer, grâce au langage, à la conversation, au débat d'idées également, un nouvel état d'esprit entre hommes et femmes. Et elles ont eu le désir de se faire reconnaître par les hommes et de se faire accepter au fond en tant qu'être humain, qu'individu.
Mais c'est elles qui s'appellent les précieuses ou on les appelle les précieuses pour se moquer un peu d'elles?
Non, c'est-à-dire on a parlé de la préciosité. C'est Molière qui s'est moqué d'elles. Hein.
Dans Les Précieuses Ridicules, c'est lui qui invente le mot ou il existait déjà?
Il existait déjà, mais il est devenu justement synonyme de ridicule, alors qu'il ne l'était pas du tout, que c'était c'était des femmes extrêmement cultivées, puis c'était la grande aristocratie. Mais seulement, justement, elles ont beaucoup reproché, même au XVIIIe siècle, il y en a encore qui reprochent à Molière, d'avoir créé cet oxymore, par exemple, à travers les femmes savantes, hein, entre une femme et le savoir. Et au fond, une femme n'a pas le droit de savoir. Et c'était la grande revendication de ces précieuses, le savoir. Pouvoir accéder à la réflexion, à la pensée, à la philosophie.
Alors, qui sont-elles ? Il y a Madame de Sévigné, par exemple ?
Alors, il y a Madame de Sévigné, oui. La marquise de Rambouillet, c'est elle qui crée la chambre bleue. Alors, la chambre bleue, c'était assez magnifique parce qu'il y avait des fleurs en permanence, des lumières, elle était extrêmement illuminée et c'est décrit comme une atmosphère extraordinaire par tous les gens qui en étaient les invités. Et donc elle avait une fille très belle qui était une des plus belles femmes, jeunes filles de France, et qui a fait attendre son futur époux pendant 13 ou 14 ans, je crois. Et c'est là le problème des précieuses, c'est qu'il y a un grand recul par rapport autant elles aiment parler d'amour et
elles aiment séduire.
Elles aiment séduire énormément. Voilà, ce sont des femmes qui sont dans la représentation. Mais il y a un grand recul vis-à-vis de la sexualité. C'est tout à fait bien illustré par la princesse de Clèves, parce qu'il y a Madame de Lafayette.
Pourquoi il y a ce recul par rapport à la sexualité ?
Parce qu'elles ont dû mal vivre. Par exemple, Madame Rambouillet avait eu 7 enfants et elle disait que s'ils n'avaient tenu qu'à elle, elle ne se serait jamais mariée. Mais elle n'avait pas pu. Les femmes étaient des reproductrices. Elles devaient assurer la descendance de la lignée.
C'est ce que vous décrivez, ce que vous expliquez dans votre livre publié chez Odile Jacob, Ces dames au salon, féminisme et fêtes galantes au XVIIIe siècle. Anne-Marie Lugand-Dardinia, ce sont les premières féministes ? C'est précieuse et c'est...
Tout à fait. Elles ne portent pas, bien entendu, le mot féministe est anachronique, mais en revanche, ce sont tout à fait les premières à revendiquer, à être prises en compte en tant qu'être humain, en tant que femme, et également avec la capacité de penser, d'aimer, avec leur sensibilité. Elles ont envie que les hommes les écoutent, s'intéressent à elles, leur fassent la cour, et c'est ça qui est mise en place, qui est créée petit à petit.
Parmi ces dames qui tiennent salon, il y a des femmes évidemment très influentes. Il y a par exemple Ninon de L'Enclos. Qui est-elle ?
Ah oui, alors Ninon de L'Enclos...
Elle vous plaît, elle ?
Ah oui, mais c'est quelqu'un de tout à fait à part. Elle ne fait pas partie des précieuses, même si elle est tout à fait proche, parce qu'elle est amie avec ces précieuses, mais qui ne peuvent pas la recevoir, parce que c'est une grande courtisane.
Alors, une courtisane, c'est une...
Alors, c'est une femme. C'est une femme qui est entretenue par des grands aristocrates, là, puisque nous sommes toujours dans le même monde. C'est une femme, alors vraiment exceptionnelle. Elle a même l'admiration de quelqu'un d'aussi austère que Saint-Simon, qui fait son éloge de manière enthousiaste.
Et pourquoi elle est si exceptionnelle, Ninon de L'Enclos ?
Alors, il y a sa beauté, mais il y a encore plus son charme, et son charme dans la séduction et dans la conversation. Elle est très cultivée. Elle a un salon où elle reçoit surtout des hommes, parce que les femmes qui sont là ne peuvent, enfin ça ne peut pas être les dames, les précieuses, Madame de Rambouillet ni Madame de Lafayette. Mais il y a quand même des jeunes femmes, bien entendu. Mais il y a par exemple Condé, le grand Condé. Il y a par exemple Molière.
Qu'est-ce qu'ils venaient chercher, pardon, les hommes dans ces salons ? Parce qu'il y a ce jeu de la séduction, vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de sexualité, c'était le débat d'idées ?
Chez elle, si.
Chez elle, oui.
Alors, autant dans les autres salons, ils viennent chercher le raffinement des mœurs, le raffinement des relations aussi avec les femmes. Et parce que quand même, il y a une séduction permanente, mais qui passe plus par le langage au fond que la sexualité. Mais en revanche, Ninon de L'Enclos, alors là, non, nous avons la première femme qui allie sexualité et savoir. Elle est considérée comme comme très, très savante, mais bon, ça n'est pas dit comme ça, mais comme très cultivée. Et on la considère comme extrêmement avisée. Elle sait chaque fois ne pas créer de scandale. C'est une parfaite amie pour les femmes comme pour les hommes. Elle est vraiment, tout le monde fait son éloge.
Et Louis XIV la consulte?
Et Louis XIV l'a fait consulter discrètement. C'était une amie de Madame de Maintenon. Elle avait échangé une grande correspondance avec Madame de Maintenon.
Des femmes qui s'entourent des plus grands penseurs du siècle, des femmes qui se battent par exemple aussi pour l'éducation des petites filles. Vous n'êtes pas au 21e siècle, mais bien au 18e. Ce soir sur RTL, on s'invite dans les salons de ces dames.
Vous écoutez RTL.
Était d'un charme secret que je serais en peine de retrouver jamais.
La curiosité est un vilain défaut.
Une expérience unique.
Jusqu'à 22h.
Je suis tentée, monsieur, de déclarer notre arrangement nul et non avenu.
RTL.
Je suis entichée d'un tout nouvel amant parfaitement satisfaisant.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Le charme, la séduction, la philosophie, la politique aussi. On parlait de tout ça dans ces salons du 18e que tenaient de grandes aristocrates. On en parle avec Anne-Marie Lugan-Dardigna. Vous êtes l'auteur de Ces dames au salon chez Odile Jacob. On parlait justement aussi de toutes ces combats que ces femmes ont fait avancer. Par exemple, à propos de l'éducation, il y a cette fameuse Louise d'Épinay qui a un rôle assez important, controversé mais important.
Oui, oui. Alors l'éducation a été la grande revendication de toutes les femmes depuis le XVIIe siècle. Et alors, il y avait vraiment une sorte de refus d'éduquer les petites filles et d'éduquer les femmes. Par exemple, avant d'en arriver à Louise d'Épinay, qui est tout à fait intéressante, je voudrais parler de cette petite fille d'Agrippa d'Aubigné, qui était un écrivain de la fin du XVIIe, début XVIIIe, et elle avait été élevée en même temps que son frère quand elle était petite, et puis, à un moment donné, il est question de donner un précepteur au frère, mais pas du tout à elle, et donc elle écrit une lettre à son père pour lui demander d'avoir droit à la même éducation. Et il lui répond que non, ça n'est pas possible, parce que si l'esprit s'élève, le cœur s'élèvera aussi, et elle n'aura plus envie de s'occuper des enfants et du ménage. C'est absolument terrible. Il faut sacrifier l'éducation des femmes à leurs fonctions traditionnelles. Et alors,
le combat partait de loin, on le comprend. Donc Louise d'Épinay, qu'est-ce qu'elle change?
Voilà. Alors Louise d'Épinay, elle change l'éducation. Elle crée vraiment, elle écrit des ouvrages sur l'éducation qui sont vraiment utilisés et réédité et utilisé pendant tout le 19e siècle sur l'éducation des petites filles, à partir de l'éducation de sa petite fille, puis d'abord de ses propres enfants. Et ça, c'est tout à fait passionnant et c'est un grand progrès, mais elle-même, À un moment donné, au fond, dans son avancée pour les femmes, parce qu'elle a beaucoup souffert quand elle était enfant et adolescente de ne pas avoir une réelle éducation, et quand même, elle ne conçoit pas qu'on puisse apprendre aux femmes des matières scientifiques, des matières économiques, politiques, etc. Et elle dit, je ne conçois pas que les femmes puissent acquérir des lumières qui puissent les rendre utiles à la société. C'est quand même assez terrible, alors qu'elle-même fait des ouvrages qui sont extrêmement importants pour l'avancée, puis elle était pour l'avancée de la société, puis elle était vraiment passionnée par toutes les idées d'époque.
Pour bien comprendre l'influence de ces femmes, il faut raconter aussi l'histoire de Madame du Châtelet. C'était qui Madame du Châtelet?
Alors Madame du Châtelet était là aussi une grande aristocrate, mais qui avait eu, grâce à son père, qui admirait son intelligence, une éducation aussi importante qu'un jeune garçon. Elle avait appris le grec, le latin, enfin pour elle, les sciences. Et c'était une scientifique. Voltaire disait lui-même, il y a eu un grand coup de foudre entre elle et Voltaire, et ils ont vécu ensemble jusqu'à la mort de Madame du Châtelet. qui a été précoce, et elle était passionnée par les sciences, et Voltaire lui-même disait qu'elle était bien meilleure scientifique que lui.
Mais elle l'a influencé, Voltaire ?
Ah oui, il lui soumettait tous ses textes. Il y avait vraiment un échange intellectuel entre eux. C'est vraiment un couple tout à fait moderne. Hein. Et Voltaire avait quelque chose de très féministe. Il disait qu'elle était vraiment supérieure à lui, sublime, etc. Bon, il était vraiment très... il l'aimait beaucoup. Et elle a en particulier été la première femme à être reçue à l'Académie des sciences. Et c'est elle qui a traduit Newton en français, l'œuvre de Newton, et qui l'a fait connaître en français. C'est encore l'ouvrage, sa traduction qui est...
Alors, vous dites que Voltaire était féministe, mais qu'en était-il de Diderot, par exemple ? Qu'est-ce qu'il pensait de ces femmes qui essayaient de s'élever ?
Alors, Diderot faisait partie des féministes quand même. C'était alors il y a eu un clivage entre entre les philosophes, des gens comme Montesquieu, Voltaire, Diderot et D'Alembert par exemple étaient profondément féministes. Mais avec Rousseau se passe la catastrophe pour les femmes, c'est-à-dire que lui considère que la femme, qu'il y a une infériorité naturelle des femmes. Et à partir de là, comme il domine toute la seconde partie du XVIIIe siècle, qu'il est vraiment un idéologue, un écrivain dont le grand roman, la Nouvelle Héloïse a un succès fou, mais vraiment, c'est le best-seller de l'époque, il prend possession au fond de tous les esprits, et y compris des femmes, Madame Roland et Olympe de Gouges étaient des rousseauistes convaincus, et elles pensaient que elles étaient convaincues de l'infériorité naturelle des femmes.
Et pourtant, Olympe de Gouges, on dit que c'est une des premières féministes.
Tout à fait, dans la mesure où elle a réclamé l'égalité des droits civiques pour les femmes, puisque les femmes avaient été oubliées dans la Déclaration des droits de l'homme.
Ces salons du 18e décline à quel moment ? Au moment de la Révolution, finalement ?
Oui. Il décline d'abord parce que tous les philosophes meurent. Condorcet, le seul qui était très jeune, qui a fait qui est allé jusqu'à la Révolution. Mais autrement, il y a un déclin qui est au fond lié au déclin à l'âge des gens qui meurent. Et c'est une génération les révolutionnaires ont tous lu Rousseau. Ils ont lu les œuvres politiques de Rousseau, mais aussi les œuvres romanesques et les Mille, surtout, qui contient un épouvantable chapitre 5 sur l'éducation de Sophie et des femmes, où Jean-Jacques Rousseau dit que les femmes ne sont bonnes qu'à servir les hommes. Il le dit de manière tout à fait...
Et on va mettre 150 ans à s'en remettre.
Exactement.
Pour conclure.
On va attendre 1970, allez, on va dire voilà. Ça comme ça.
Merci à vous, Anne-Marie Lugan d'Ardigna. Vous publiez Ces dames au salon féminisme et fête galante au XVIIIe siècle chez Odile Jacob. Merci à vous.
Merci
beaucoup.
Vous écoutez RTL.